Bonjour à tous, bienvenue dans une troisième journée d'un cycle d'émissions spécialement réalisé pour la Semaine Sainte. Pendant ces cinq jours, donc jusqu'au Vendredi Saint, Radio Présence vous propose une lecture commentée spirituellement et musicalement de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Pour nous porter dans la lecture commentée de la Passion, nous sommes avec le Père Jean-Michel Poirier, bonjour.
Bonjour.
Et le chef d'orchestre Jean-Marc Andrieux.
Bonjour.
Nous avons donc conclu hier, mardi, sur la première partie de la Passion. Nous ouvrons aujourd'hui la deuxième partie qui commence par un choral que nous écoutons maintenant. Et donc après ce choral, nous enchaînons avec un long récitatif qui est un échange entre l'évangéliste et Pilate. Donc Jésus est chez Pilate, il est interrogé par Pilate. Père Poirier, quel est le sens de cet interrogatoire?
Ils menèrent donc Jésus de chez Caïphe jusqu'au prétoire, au matin. Alors il apparaît, c'est dit clairement dans l'évangile de Jean, que le grand conseil des Juifs, le Sanhédrin, n'a pas le pouvoir en réalité de condamner à mort. Il faut donc que ce soit prononcé par l'autorité politique civile qui est un Romain, puisqu'à l'époque le territoire est occupé et géré directement par un préfet romain. Donc le fameux Ponce Pilate, dont on a pu douter d'ailleurs de l'authenticité historique, jusqu'à ce qu'on découvre une pierre à Césarée-Maritime au XXe siècle qui montre bien qu'effectivement il y avait un préfet romain qui s'appelait Ponce Pilate. Alors Jean va l'orchestrer d'une certaine façon parce qu'il va y avoir il va développer l'interrogatoire notamment autour de la figure royale. Il va y avoir un échange entre Jésus et Pilate à la fois pour savoir si effectivement Jésus est le vrai roi des Juifs, mais aussi de quel type de royauté il s'agit et d'où Pilate tient son pouvoir. Et ça, c'est propre à Jean. Et derrière, il y a ce qu'on appelle une typologie royale, c'est-à-dire que Jean veut présenter Jésus dans sa royauté, mais qui est évidemment une royauté paradoxale. Alors du coup, la couronne d'épis devient une couronne royale, le manteau devient un manteau royal de pourpre, et c'est une réflexion finalement sur le véritable pouvoir, et aussi d'une certaine manière une réflexion sur le pouvoir politique, parce que le pouvoir politique, Jésus va le dire à Pilate, si tu le tiens, c'est que quelqu'un te l'a donné, quelqu'un d'en haut. Et en ce temps de préparation à des élections, c'est intéressant de voir qu'il y a une réflexion profonde sur le pouvoir. Finalement, pourquoi se sert-on du pouvoir? C'est le pouvoir de faire des choses ou c'est un pouvoir sûr? Et lorsqu'on reçoit la responsabilité du pouvoir sûr, c'est au service de quoi? De sa propre gloire? Comme dira l'évangile de Jean, il y a toute des réflexions extrêmement profondes tout au long de l'évangile d'ailleurs de Jean sur la nature même du pouvoir. Et ici, le véritable pouvoir, évidemment, le pouvoir supérieur, c'est celui qu'exerce Jésus en donnant sa vie. Autrement dit, le véritable pouvoir, c'est de donner la vie, de donner sa vie, mais aussi de donner la vie aux autres, et non pas de la prendre, et non pas de la contraindre.
Il y a une opposition entre le pouvoir de ce monde, qui est représenté par Ponce Pilate, et le royaume qui n'est pas de ce monde, qu'amène Jésus. Donc le pouvoir de Ponce Pilate, qu'est-ce que c'est?
Tout à fait, c'est-à-dire que, même pour être encore plus précis, il faudrait dire qu'il y a une façon dont le monde le monde au sens du monde refermé sur lui-même exerce le pouvoir. Et il y a un autre monde, si on peut dire, qui lui s'ouvre à une transcendance et qui vit du coup ses réalités humaines de façon différente. Il y a effectivement une confrontation ici entre le pouvoir de Pilate, mais il y a aussi derrière, là, quand même, malgré tout, la figure des grands prêtres qui ont conduit Jésus jusque vers Pilate, mais ça, on le commentera un petit peu plus tard. Mais effectivement, il y a... c'est pas tellement deux mondes qui s'affrontent, c'est deux manières de vivre le monde. Et il faut bien comprendre que dans l'évangile de Jean, lorsqu'il y a le monde perçu de manière négative, c'est une manière de vivre l'existence en fermant, si je puis dire, toutes les perspectives et sur l'homme qui est auto-centré, enfin, qui se centre sur lui-même. Alors qu'il y a une autre manière de vivre le monde qui est une ouverture à une autre dimension, à une transcendance. Mais on reste quand même dans ce monde, bien sûr. Et le Verbe s'est fait chair. Il ne s'est pas fait uniquement esprit.
Alors tout ça se traduit évidemment en musique de plein de manières différentes pendant cette longue séquence de l'interrogatoire. On peut peut-être s'arrêter un petit peu, Jean-Marc Andrieux, oui. Sur ce principe des dialogues entre le récitatif et le chœur, ce qu'on appelle la tourba.
Oui, en fait, le chœur va participer à l'action. Il a déjà participé un petit peu dans la première partie, mais là, il va avoir une importance très 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 grande dans le déroulement de l'action et jouer le rôle de la tourba, c'est-à-dire le peuple qui va lancer des imprécations, Kreuzige, qui va demander à Pilate de crucifier. D'ailleurs, on imagine que ces chœurs assez violents impressionnent Pilate lui-même. Il va aussi jouer le rôle des soldats à certains moments, il va jouer le rôle des grands prêtres, c'est-à-dire que le chœur va être un personnage à part entière et va exprimer là aussi une certaine violence à ce moment-là de l'action, et Bach va faire succéder plusieurs chœurs. Ce début de deuxième partie là aussi est extrêmement théâtral et très très impressionnant.
Avec un dispositif plus resserré, effectivement, plein de petites interventions, plein de... En fait, c'est pas vraiment des... Ce ne sont plus des grands chœurs comme le cas introductif. C'est des séquences très courtes.
Ce sont des séquences assez courtes, bien que quand même pas mal développées. Dans la première partie, c'était juste 4 ou 5 mesures. Là, les chœurs sont plus longs. Ils font une vingtaine ou trentaine de mesures. Il y a des imitations, Bach utilise le contrepoint pour donner une impression de plus grand nombre, avec des effets de, comment dire, un peu comme de trompe-l'œil, quoi. Hein. On a l'impression qu'il y a 50 voix alors qu'il n'y en a que 4. Et tout ça est fait pour impressionner l'auditoire.
On peut effectivement opposer le choral, dont on a parlé un autre jour, qui est très vertical, du contrepoint. Vous pouvez expliquer un petit peu la différence entre ces grands dispositifs musicaux ?
Oui, alors pour simplifier, le choral, il y a une verticalité dans l'écriture, parce que c'est un enchaînement d'accords, tandis que dans les chœurs, comme ça, le contrepoint, c'est l'horizontalité, c'est des mélodies qui se sont superposées.
Chacun un peu à sa partie, et puis ça se répond, c'est les canons, c'est des choses comme ça.
Chaque voix a une grande indépendance, c'est un peu comme un canon, exactement.
D'accord. Et c'est un dispositif qu'il va beaucoup utiliser donc dans ses interventions de la foule.
Oui. On appelle ça le fugato, hein, la forme un peu comme une fugue. Quoi.
Oui. La forme achevée du canon, c'est la fugue, est-ce qu'on peut dire ça ?
Non, c'est le canon qui est la forme achevée de la fugue. C'est-à-dire la plus grande complexité, c'est la plus grande contrainte, c'est dans le canon. C'est-à-dire que les voix font exactement la même chose. Tandis que dans la fugue, vous avez l'exposition et la réponse à une autre voix pendant que la première voix continue en faisant le contre-sujet. Donc ce sont des techniques d'écriture très complexes.
Bien, écoutons un long passage et passionnant qui alterne donc récitatif et intervention de la foule.
Was bringt ihr für Klage wieder diesen Menschen?
Ja,
Après ce premier long passage, nous avons un choral, donc le choral qui suit, Ach Großer König. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce choral, Père Poirier ou Jean-Marc Andrieux, ce qu'il signifie, ce qu'il vient nous raconter?
Grand roi, hein, Großer König, c'est le roi.
Voilà, c'est tout à fait dans la problématique joannique que je soulignais au début de cette émission, c'est-à-dire cette typologie royale. Et effectivement, il arrête l'action Bach lorsque Jésus vient de dire « Nun ist mein Reich nicht von dannen », c'est-à-dire « mon royaume n'est pas d'ici ». Et donc, à ce moment-là, l'assemblée va s'adresser à lui en lui disant « Ah, grand roi, hein, grand pour tous les temps ». Voilà. Et donc, on répond à l'affirmation de Jésus en s'adressant donc à lui comme au véritable roi. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir qu'à l'époque de Bach, l'Allemagne est diffractée en de nombreuses principautés. Ah, avec, oui, oui. Alors, il y a des rois, il y a des princes, il y a des archevêques qui sont, etc. Enfin, il y a toutes sortes de pouvoirs.
C'est très morcelé.
C'est très, très morcelé. Et je me pose la question, d'ailleurs, parce que à l'époque, si l'Église catholique, après la réforme grégorienne, a pris son indépendance par rapport au pouvoir temporel, dans l'Église luthérienne quand même dépend pour beaucoup des princes locaux.
Du prince local.
Du prince local. Mm-hmm. Hein. Et c'était peut-être aussi, on peut imaginer que le prince local était là.
Oui.
On peut imaginer qu'il était là et quelque part...
Peut-être
on,
présent. Oui,
peut-être présent. Et voilà. Et donc là, toute l'assemblée ne se tourne pas, comme à la cour de Louis XIV, vers le roi. Oui. Mais le véritable roi, c'est Jésus.
Nous écoutons ce choral, Ach großer König. Après ce choral, un nouveau dialogue, un nouveau récitatif, et arrive la personne de Barabbas. Alors, qui était vraiment Barabbas ?
Barabbas. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a aussi une ironie de l'histoire. Alors, Barabbas n'est pas propre à l'évangile de Jean, on le retrouve aussi dans les autres évangiles. Barabbas, en araméen, ça veut dire « fils du père ». Alors, beaucoup de prénoms étaient des noms, des prénoms avec des significations. Mais ici, évidemment, il y a une ironie parce que il s'agit de savoir qui on va relâcher. Est-ce que c'est Barabbas, donc ça veut dire fils du père, ou le véritable fils du père, qui est Jésus.
Et oui.
Donc, évidemment, il y a une ironie sur le nom même de Barabbas. Alors on nous le dit dans l'évangile, c'était un meurtrier, mais comme quelqu'un qui avait fomenté une révolte, qui avait mené un coup de main, un chef de bande sans doute, hein, qui était dans la geôle. Et on nous rappelle effectivement cette coutume, mais alors qui est vraiment pas propre du tout, ni au temps, ni à l'époque, c'est que pour les grandes fêtes, on gracie. Autrefois, il y a même eu... puisque nous sommes en période d'élection présidentielle, il y avait même, je crois que ça a été réduit récemment, mais il y avait cette coutume en France que le nouveau président graciait. Alors du coup, dans l'année qui précédait, on se garait un peu n'importe où, parce qu'on savait que tous les PV allaient sauter. Et bon, alors ça c'était, évidemment c'est anecdotique. Mais derrière, il y avait cette on a un petit peu partout, à l'occasion de grands événements, on gracie les condamnés. Et dans la dramatique, là, Pilate pense qu'il va pouvoir s'en sortir, parce que Pilate, il est bien embêté, parce qu'il réalise que Jésus, il est innocent, il réalise que c'est un coup monté. Et en même temps, il est un peu coincé, parce qu'on vient de lui dire, ah oui, mais alors si tu ne libères pas celui-ci, il se fait passer pour le roi, donc toi, tu vas libérer quelqu'un qui s'oppose à l'empereur. Et alors, Pilate est vraiment coincé.
Il est pris au piège.
Il est pris au piège. Alors, il pense qu'il va pouvoir s'en sortir, en faisant appel, mais seulement en faisant appel à ce droit de grâce à l'occasion de la fête de la Pâque. Sauf que on nous dit qu'on va agiter la foule pour que finalement on demande la libération non pas de Jésus l'innocent, mais du meurtrier Barabbas.
Et effectivement, la foule allait déchaîner. L'évangéliste nous dit ils crièrent de nouveau tous ensemble en disant, et nous écoutons cet air.
Zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, erhöret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er da gesagt, ging er wieder hinaus zu den Süden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch jeden König losgebe? Da schrien die wieder alle da und sprachen,
après cet épisode avec un véritable ressort dramatique, intervient un arioso de basse. Alors, que raconte-t-il cet arioso ?
Bien, l'action s'arrête, encore une fois. Ouais. C'est un peu comme...
On appuie sur pause et on écoute.
On appuie sur pause, on médite.
On médite.
Voilà, hein, bien sûr. Et ici, alors, pour la différence entre aria et arioso, Père Poirier disait que l'aria, en fait, c'est la même phrase qu'on répète plusieurs fois. L'arioso, non. C'est, en fait, c'est une espèce de mélange entre le récitatif et l'aria. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une, la phrase n'est pas répétée comme le récitatif, mais elle est mise en musique avec une instrumentation des instruments et le débit est plus lent. Donc c'est à mi-chemin entre le récitatif et l'aria. Donc c'est l'arioso. Cet arioso est encore une fois extraordinaire. Il dit « Contemple mon âme avec un plaisir angoissé, avec une joie amère et un cœur à demi étouffé. » Ton bien extrême dans les souffrances de Jésus. C'est la contemplation des souffrances de...
Les mots sont incroyables. Plaisir Jésus. Angoissé, joie amère.
Dans les oxymores. Là,
c'est impressionnant.
Et ça suit la scène de la flagellation. Hein. Pilate vient de faire flageller Jésus après avoir donc eu le refus de l'assemblée de le libérer. Il est obligé de commencer d'accomplir une sentence.
Et le texte évangélique ne donne aucun détail sur la flagellation ici. Et c'est pour ça aussi que, dans une perspective qui est quand même très marquée, quand même par un certain dolorisme aussi,
même si on n'est pas.
Et le piétisme, on va en parler. Donc l'action s'arrête, et par l'arioso de la basse, mais aussi par l'air du ténor. Qui va suivre.
On contemple
un peu ses blessures, quoi. Voilà, on contemple ses blessures. On est dans quelque chose que le texte ne dit pas, mais qu'il ouvre une fenêtre, si vous voulez.
On peut trouver de nos jours que le texte est, entre guillemets, un peu de mauvais goût. Certains commentateurs, dans les années 60, trouvaient le texte insupportable. Je peux peut-être continuer de dire la traduction. Contemple ton bien extrême dans les souffrances de Jésus, comme pour toi sur les épines qui le piquent. La fleur qui ouvre le ciel fleurit. Comparaison entre les blessures et les fleurs. Tu peux cueillir de bien doux fruits de son absinthe. C'est pourquoi regarde-le sans relâche. On est dans la contemplation des blessures du Christ.
Écoutons donc cet arioso. Betrachte meine Seele.
Lust und Palme klemmt.
Et donc juste après cet arioso vient un aria, cette fois-ci, qui est confié au ténor. On est... Donc les deux s'enchaînent, mais pourtant on passe de la basse au ténor, on passe d'un arioso à un aria, donc c'est pas la même chose, mais c'est enchaîné. Comment est-ce qu'on...
Oui, on continue la contemplation. Alors l'enchaînement de l'arioso et de l'aria va être un procédé beaucoup plus utilisé par Bach dans la Saint-Matthieu, dans la Passion de Saint-Matthieu. Et ici, on n'a que deux exemples là d'utilisation de ce procédé. L'arioso qui met en condition, et puis après l'aria qui va développer beaucoup plus l'idée poétique. Et ici, on continue de contempler les blessures. Je crois que l'idée poétique est encore plus développée, puisque les traces de flagellation de Jésus sur son dos font penser à un arc-en-ciel. Alors bon, l'idée poétique est quand même un peu, d'un goût qu'on peut trouver douteux de nos jours, mais qui à l'époque, cette époque-là de piétisme... il s'agissait à ce moment-là quand même de frapper l'esprit du fidèle, hein, et puis de lui donner des images. D'ailleurs, on distribuait à l'époque aussi dans les églises des images, des gravures, des petites reproductions de gravures qui illustraient ces idées-là. Et évidemment, de toute façon, même dans le culte catholique, l'iconographie reprend ces idées-là de contemplation des blessures.
Là, je pense aussi qu'il y a une allusion à la fin du déluge, à l'époque de Noé, puisqu'il est question des vagues, des flots, des péchés qui se sont retirés. Et le nouveau signe de l'alliance entre la terre et le ciel, après le déluge qui est donné à Noé, c'est le signe de l'arc-en-ciel. Donc c'est peut-être de dire que, on peut suggérer, ça suggère ici que avec la mort de Jésus, enfin la mort de Jésus est comparable si vous voulez au déluge, mais qu'après il y aura une nouvelle alliance en son sang.
Symbolisée par l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est illustré musicalement.
J'allais vous demander quelle illustration musicale. Oui.
Il fait une figure, si vous regardez la partition, évidemment, c'est plus visuel qu'autre chose, mais on voit cette formule qui fait ta la 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 la. Et vous voyez, ça monte, ça redescend, ça fait un peu la courbe de l'arc-en-ciel.
D'accord, mais écoutons donc cette aria, Erwäge.
Yeah.
Après cette aria, reprend à nouveau le récit entre l'évangéliste, le chœur, la suite du dialogue entre Jésus et Pilate, et avec la foule, et notamment plusieurs interventions extrêmement dynamiques de la foule, notamment ce fameux passage où la foule crie « Crucifie-le ». Donc la foule, qui est cette foule, Père Poirier ?
Alors, dans le contexte historique, c'est les gens qui ont été rassemblés là. On peut penser que, étant donné que tout ça, ça s'est passé en catimini pendant la nuit, il n'y avait pas non plus foule. Vous savez, quand on dit foule, voilà, la réalité historique. Et ce qu'on peut supposer, ce que nous laisse envisager les textes, c'est que il y a là peut-être des sympathisants de Jésus, mais il y a surtout aussi des gens que les grands prêtres ont fait venir pour faire nombre, afin de pouvoir obtenir la condamnation de Jésus. Alors c'est vrai que dans les évangiles, les différents évangiles, l'identification de la foule et de ceux notamment qui demandent la crucifixion de Jésus est différente. Alors c'est vrai que dans l'évangile de Jean, on va avoir une insistance sur les Juifs. Et ça, parfois, ce qui demande donc la crucifixion, mais ça va être parfois, ou ça a été, on le sait, dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire tout court, utilisé dans un sens très antisémite. Alors je ne reviendrai pas ici sur l'antisémitisme de l'Allemagne à cette époque-là, le fait que Luther, à un certain moment donné, avait... en tout cas, certains de ses propos peuvent être utilisés de façon... de façon à condamner les Juifs en général, et on sait à ce à quoi, hélas, ça a conduit, c'est dramatique. Alors en fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les Juifs dans l'évangile de Jean, et généralement on explique ça par le fait que l'évangile de Jean est rédigé à une époque relativement tardive, plutôt vers 90, donc on est après, en tout cas, après 70, et donc l'Église, après la chute du Temple, et la constitution du judaïsme rabbinique, et à l'époque, il y a vraiment une séparation, c'est-à-dire que entre les chrétiens, qui au début étaient pratiquement tous des juifs, puis après les païens sont entrés dans le jeu, mais néanmoins, le cœur, on peut dire, de la communauté, en tout cas judéo-chrétienne, se percevait comme faisant encore partie du monde des juifs.
Et qu'après la chute du Temple,
après la suite, voilà. Et dans l'évangile de Jean, il est question à un moment donné, vous serez ex-synagogués. Vous voyez ? Vous serez rejetés des synagogues. Et donc là, on parle des juifs comme étant des autres, si vous voulez. Mais c'est plus une querelle entre frères, si vous voulez, une querelle d'héritage.
Déjà à l'époque.
Une querelle d'héritage entre frères. Voilà. Et on explique souvent cette figure des juifs dans l'évangile de Jean comme étant le témoignage donc d'une séparation entre ce qui commence à devenir l'Église et puis les Juifs du judaïsme rabbinique qui se constitue après la chute du Temple. Alors évidemment, il ne faut pas l'interpréter dans un sens antisémitique, parce que on voit bien que dans l'évangile de Jean, on nous montre qu'en réalité, la mort de Jésus, elle est le fait pas simplement des Juifs, mais dans les Juifs, elle est surtout le fait des grands prêtres. Il faut quand même rappeler que tous les disciples sont des Juifs, évidemment, que la mère de Jésus est juive, etc. Enfin bon, ça va sans dire. Mais c'est surtout les grands prêtres, et puis leurs acolytes, et puis aussi la couardise et le manque de courage politique de Pilate.
Bien sûr.
Et puis dans l'évangile de Jean, il est quand même marqué que tout cela ne pourrait pas se faire si Jésus lui-même n'acceptait pas, s'il ne donnait pas sa vie. Donc le fameux peuple déicide est non seulement une ineptie, mais
une contre-vérité.
Une contre-vérité à la fois historique et théologique.
Donc c'est ces paroles terribles, donc ce crucifie-le, ce crucifige en latin, le kreutzige en... Là, il y a une bonne matière pour faire une musique un peu violente.
On se retrouve encore à l'opéra, bien sûr, avec un chœur qui va crier et répéter sur un rythme un rythme de croche de doule, de dactyle, kreutzige, 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 avec des crescendo et des formules, là aussi, de chromatisme qui vont exprimer à la fois la grande tension, l'angoisse et la violence de ces propos.
Écoutons donc ce passage.
Thank you.
donc ce passage du cœur. Après un nouvel épisode de dialogue entre Pilate et l'évangéliste, il y a un choral qui est précédé par une parole de l'évangéliste. Dès lors, Pilate chercha comment le libérer. Et donc vient ensuite un choral. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce choral ?
Ce choral parle effectivement, puisqu'il est question de libérer, de la captivité, du cachot, mais on retourne l'image, c'est-à-dire que par la captivité du Christ, nous est venue la liberté. Et le cachot, ce qui de fait Jésus est enfermé là, était en réalité le trône de grâce, le lieu d'asile de tous les fidèles. C'est-à-dire qu'on renverse les images. Ce que Jésus vit, qui aux yeux du monde est une captivité, un cachot, et puis ensuite une condamnation criminelle, est en réalité l'accomplissement d'une libération profonde pour l'ensemble du peuple. C'est-à-dire qu'on retrouve un thème et qu'on retrouve dans les autres évangiles aussi, et qui est amplement souligné déjà depuis le début de la Passion, à savoir que si Jésus vit tout cela, c'est précisément pour que nous ne le vivions plus et pour nous en libérer. Donc s'il se laisse faire prisonnier, c'est afin de nous libérer de toutes les prisons. Et s'il se laisse condamner, c'est afin que nous ne soyons pas condamnés sous la condamnation du péché, mais au contraire, nous vivions de la grâce et de la vie qu'il nous donne.
Donc nous pouvons écouter ce choral, « Durch dein Gefängnis ». Après ce choral, un nouvel épisode de dialogue avec un nouveau, à la fois l'emploi de tous ces dispositifs musicaux, le récitatif, le chœur qui fait des interventions, Pilate avec sa voix de basse qui dialogue lui aussi. On va aboutir à la fin à la condamnation de Jésus et à l'envoi de Jésus à la crucifixion. Donc c'est évidemment une part très dramatique qui se joue ici. Et vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça va se jouer ici, entre l'évangéliste et Pilate ?
Oui, ça se continue de se précipiter. Hein. Les événements sont encore plus théâtraux, si c'est possible. Et les chœurs vont répéter la même musique qui est reprise par Bach en miroir un peu. Il va reprendre la même musique sur des textes différents. Vec, crucifie-le, assez, retire-le, il va le crucifier. Enfin, il y a tous ces passages très violents. Et wir haben keinen König, den Kaiser. Nous n'avons pas de roi, pas d'autre roi que César. Là aussi, il y a une affirmation. On revient au thème du roi et le cœur va hurler notre seul roi, c'est César.
Et donc Pilate cède.
Et Pilate cède. Et c'est l'occasion de dire aussi que la musique de Bach dans La Passion selon Saint Jean est extrêmement, descriptive aussi, et très, très vigoureuse, parce qu'on pourrait parfois avoir une lecture de l'évangile de La Passion selon Saint Jean par rapport aux autres passions comme beaucoup moins dramatique, comme plus un grand commentaire théologique de La Passion, si on la compare encore une fois à celle de Marc. Or, Bach est très respectueux du texte, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi du drame chez Jean. Il y a aussi de l'action, bien sûr.
Mais pour Bach, à certains moments, il n'y en a pas assez, parce qu'il va utiliser des passages de Matthieu. On va voir plus tard, il va utiliser quelques versets de Matthieu pour rendre son discours encore plus dramatique. Pardon.
Et si on la compare à sa Passion selon Saint Matthieu, La Passion selon Saint Jean et a certains aspects, en tout cas, plus dramatiques.
Ah, plus violentes, oui.
Plus violent,
certainement plus violent et plus théâtraux.
Là, en tout cas, de manière très très courte, il n'y a quasiment pas de chemin de croix, parce qu'il le livra pour qu'il soit crucifié, et puis quelques versets plus loin, là, ils le crucifièrent. Donc on
oui,
est...
effectivement, vous avez raison de noter que il n'y a pas de chemin de croix chez Saint Jean. Il ne retient que des moments, mais qui sont les moments essentiels dont il essaie de faire ressortir le sens profond. On n'est pas, si vous voulez, dans l'exhaustivité, et puis n'exploite pas, comme d'autres le feront, comme dans la synoptique, la rencontre avec tel ou tel personnage, il n'y a pas Simon de Cyrène, etc. Enfin bon, il n'y a ni les filles de Jérusalem, enfin bon, il y a ici, on passe directement au Golgotha.
Oui, et là, l'évangéliste va dire ce mot, va chanter ce mot qui est mis en valeur, et tout à coup, oui. Golgotha, la formule mélodique avec beaucoup de tension harmonique illustre tout de suite le Golgotha.
Merci beaucoup. Merci Père Poirier, merci Jean-Marc Andrieux pour cette séance d'aujourd'hui, séance commentée de l'Évangile selon Saint-Jean, de la Passion selon Saint-Jean. Donc nous nous retrouvons demain.